Je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne d'être à nouveau parmi vous. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc. Luc, chapitre 7. Luc chapitre 7, on va lire les 10 premiers versets. Quelqu'un veut-il lire ces versets-là?
Après avoir achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Mais son premier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le pont du Mourir. Il a entendu parler de Jésus et lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir de nouveau son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus. Le visage que lui adressèrent, mais l'instant de supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, était vers l'éloigné de la maison, quand le centenier envoya ses amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne de la foi. Mais tu aimes que mon serviteur se réveille. Car moi, je suis soumis à vos supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Le retour à la maison. Les gens envoyés par le centenier lui dirent des serviteurs qui avaient été
malades. Amen. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, on voit le compliment de Jésus à l'égard de cet homme. Le centenier, dans certaines versions, c'est un centurion, ou d'autres versions encore, officier romain. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » C'est intéressant de remarquer que les plus beaux compliments de Jésus étaient adressés à des étrangers, à la femme syrophénicienne, au centurion ici, et que dire aussi des Samaritains qui n'étaient pas considérés comme juifs. Rappelez-vous quand il avait guéri les 10 lépreux, et puis qui est-ce qui était revenu? C'était un Samaritain, et il dit, n'y a-t-il que cet étranger pour venir dire merci? Donc, intéressant, ces remarques de Jésus et ces compliments à l'égard de ces étrangers. En fait, le problème avec les Juifs, c'est que, malgré que c'est indiqué à multiples fois, dans l'Ancien Testament, que Dieu avait un plan, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier, pour toute l'humanité. Et pourtant, les Juifs n'arrivaient pas à capter cela. Et donc, ils ne pensaient qu'à eux, pas aux autres. On peut voir cela même dans le comportement égoïste de Jonas. Lorsque Dieu avait vu, eh bien, ce qui se passait à Ninive, il a dit, Jonas, va les avertir. qu'ils se repentent, afin que j'aie pitié d'eux. Mais Jonas n'a pas voulu y aller. Et Dieu a dû employer un peu la force pour que Jonas y aille. Et donc voilà, Dieu avait un plan pour l'humanité, pour tout un chacun de nous. Avant même que nous naissions, Dieu pensait à nous. Et il avait un plan pour nous. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu ne fait pas de discrimination. Alors ici, Jésus loue la foi de ce centurion ou de ce centenier. Alors tout d'abord, qui est un centurion ou un centenier? Eh bien, un centurion, c'était un officier romain qui avait sous sa responsabilité une centaine de soldats. C'était un capitaine. Et donc, en Israël, je dois dire, est-ce que ça est indiqué ici? Oui, il est dit romain. Donc, en Israël, il faut dire que, de manière générale, il n'était pas bien vu. Parce que c'était des Romains, c'était des occupants. Et, sauf peut-être pour celui-ci, pour ce centurion qui avait quand même quelques amis juifs. Donc, les Romains n'étaient pas bien vus, puisque c'était des occupants, même s'ils étaient respectés peut-être juste pour la forme, parce qu'ils représentaient l'oppression, ils représentaient l'ennemi, et comme les Juifs, je disais, avaient une très haute idée d'eux-mêmes et que de manière générale, donc un Romain, un non-Juif, ne pouvait pas pénétrer dans un lieu juif. Ici, nous avons une situation un peu particulière. Ce centurion qui a tout d'abord un problème et qui envoie chercher Jésus. Pourquoi est-ce qu'il envoie chercher Jésus? Et c'est là que nous allons examiner un peu la foi. Jésus dit que cet homme avait une grande foi. Quelles sont les qualités de la foi? D'où vient la foi? Ici, il est écrit, au verset 3, « Il entendit parler de Jésus. » Et dans Romains, nous lisons, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cet homme a entendu parler de Jésus. Donc, pour avoir la foi, il faut avoir entendu la voix de Dieu. Il faut avoir entendu parler de Dieu. Et donc, cet homme, on peut dire, il était attentif à ce qu'il a entendu concernant Jésus. Et là, il a eu la foi. Donc, si nous voulons développer notre foi, nous devons développer, eh bien, notre écoute de la parole de Dieu. L'Éternel disait déjà à Josué, eh bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi est-ce qu'il a dit ne s'éloigne point de ta bouche? Quelle est la relation? Eh bien, c'est parce que, autrefois, quand on disait qu'on lisait, eh bien, on lisait à haute voix. Donc, c'est pour ça qu'il dit ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la. Médite cette parole jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et donc, si nous voulons vraiment, eh bien, avoir la foi, eh bien, il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est bien d'avoir des études bibliques. Et c'est bien aussi de participer aux études bibliques. Il y a des gens qui pensent peut-être que c'est une perte de temps. Non. Plus tu connaîtras la parole, plus tu connaîtras qui est Dieu, et plus, eh bien, ta foi, eh bien, sera solide. Mais si tu ne connais pas la parole, sur quoi vas-tu baser ta foi? La foi, c'est pas juste une idée vague, ce n'est pas une illusion. Mais la foi, elle est basée sur les promesses de Dieu. Elle est basée sur le caractère de Dieu. Puisque je le connais, eh bien, donc, je lui fais confiance. C'est comme peut-être quelqu'un qui ne monterait pas en voiture avec certaines personnes. Si tu sais que c'est un chauffeur, tu dis non, je ne vais pas monter en voiture avec celui-là ou celle-là. Mais si tu connais la personne, eh bien, tu dis, ok, oui, je monte en voiture avec la personne. Donc, c'est basé sur une connaissance du caractère de la personne. Et donc, la foi vient du fait que nous connaissons qui est Dieu. Puisque je connais qui est Dieu, à ce moment-là, je peux exercer ma foi, je peux exercer ma confiance. Je sais qui il est. Puisque je sais qui il est, je sais quoi lui demander. Amen. Si, par exemple, quelqu'un est pauvre, qu'est-ce que je peux lui demander? En fait, pas grand-chose. Mais si je sais que la personne est riche, en fonction de sa richesse, je sais quelles sont les choses que je peux lui demander. Donc, cette personne peut donner selon ses moyens. Et notre Dieu, il est riche. Notre Dieu, il est puissant. Et donc, et cela, c'est pas seulement une connaissance que je pourrais dire livresque, intellectuelle, mais c'est quelque chose que nous devons expérimenter dans notre vie. Job, par exemple, était un serviteur de Dieu. Il craignait Dieu. Il était un homme intègre. Mais parfois, il va passer une épreuve terrible où il va continuer à exercer sa foi. Mais après, à la fin de cette expérience, Job va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Donc, des fois, nous entendons parler de Dieu, mais il faut une expérience. Donc, lorsque, par exemple, dans la Bible, il est question de connaissance, il ne s'agit pas de connaissance intellectuelle. Et la connaissance dans le sens hébreu et la connaissance dans le sens des Grecs, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Pour les Grecs, c'est intellectuel, c'est mental. Mais pour l'hébreu, la connaissance, c'est intime. Si j'entends parler de quelqu'un, je ne peux pas dire que je le connais. J'entends parler, par exemple, d'Obama, mais je ne peux pas dire que je le connais. Je l'ai vu à la télé, j'ai lu à son sujet, mais je ne le connais pas. Mais quelqu'un que tu rencontres, avec qui tu parles tous les jours, tu connais ses idées, tu dis là, je connais. Et donc, la foi vient de ce qu'on entend. Notre foi est basée sur ce concept de Dieu, sur ce concept de ses promesses. Et donc, cet homme, il a entendu parler de Jésus. Et on peut dire que cet homme s'intéressait déjà à Dieu, parce qu'on voit, il est dit, au verset 4, « Ils arrivèrent vers Jésus et le suppliaient avec insistance, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, verset 5, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Cet homme reconnaissait déjà que les Juifs avaient reçu le message de Dieu. Il était déjà intéressé, et à cause du fait qu'il voyait que les Juifs avaient déjà reçu le message de Dieu, la parole de Dieu, eh bien, il aimait déjà les Juifs pour cela. Il dit, ces gens-là, eh bien, ont la parole de Dieu. Et son intérêt est tel que, eh bien, il a même fait construire une synagogue. Il a aidé les Juifs à construire leur synagogue. Donc on voit cet homme s'intéresser déjà à Dieu. Donc ça c'est le premier point de notre message, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et et c'est pourquoi donc nous devons connaître la parole de Dieu, parce que en connaissant la parole de Dieu, nous apprenons à connaître non seulement ses promesses, mais nous apprenons à connaître qui est Dieu. Et plus nous connaissons Dieu, plus notre foi, eh bien, sera solide. Parce que notre foi est basée sur des choses concrètes. Hein? Nous sommes là parce que Christ est ressuscité. Amen. Ça, c'est un fait historique. La foi, c'est pas seulement un saut dans l'inconnu, mais notre foi est basée sur Dieu. Bien sûr, il y a une part d'inconnu, mais il y a aussi une part de connu. Parce que je sais que, en qui j'ai cru, en qui je crois, je sais en qui je crois. Et donc, même s'il y a beaucoup d'inconnus, c'est pas grave. Mais celui en qui j'ai placé ma confiance, lui, il sait tout. Amen. Je ne sais pas, mais lui, il sait. Il sait. Donc, la deuxième chose que nous pouvons remarquer dans la foi de cet homme, c'est que c'est un homme qui a une foi humble. Il a une foi humble. Remarquez comment les choses se présentent. Verset, on va commencer par le début. Alors que les gens qu'il a envoyés transmettre le message à Jésus, disaient de lui ceci. Arrivant auprès de Jésus, ils supplièrent Jésus. Et puis ils disent, il mérite que tu lui accordes cela. Et ensuite, ils énumèrent ce que cet homme a fait. Il aime notre nation. Il a fait construire notre synagogue. Il mérite que tu lui fasses cela. Par contre, que dit l'officier lui-même, le centurion lui-même? Jésus partit avec eux, il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai dit... on va s'arrêter là. Le point que j'aimerais souligner, c'est le verset 7, il dit, c'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Les autres disent, il mérite cela, mais lui dit, je ne mérite rien. Je ne mérite pas cela. La foi de cet homme n'est pas basée sur ses œuvres, sur sa piété, sur ce qu'il a fait. Il ne s'est pas vanté disant, j'aime Jésus, j'aime ton peuple, j'ai fait même construire une synagogue pour tes frères, pour tes compatriotes. Mais il dit, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, c'est pour ça que je n'ai même pas osé aller moi-même en personne vers toi. Non seulement il n'a pas osé aller vers Jésus, il dit à Jésus que ça ne vaut même pas la peine qu'il entre chez lui. Il n'a pas osé aller vers Jésus lui-même, c'est pour ça qu'il envoie une délégation. Et ensuite, quand Jésus maintenant arrive, il dit, Seigneur, c'est pas la peine d'entrer. Donc, il juge que vraiment il est indigne. Et alors, où est placée la confiance de cet homme? Donc, n'est pas en lui-même, mais il croit en la puissance de Jésus. Il croit que, eh bien, qu'il n'y a pas de distance à ce que Jésus peut faire. Alléluia. Il n'y a pas de distance. Il dit, Seigneur Jésus, eh bien, là où tu es, tu peux dire un mot. Tu peux dire un mot. Alors que d'autres exigeaient, ah, il faut que tu viennes lui imposer les mains. Il dit, non, tu peux dire un mot à distance. Et voilà donc pourquoi Jésus a émerveillé cet homme. Eh bien, il savait qu'il n'était pas digne. Mais, il savait que sa foi s'est basée non pas sur ses propres mérites, mais sur les mérites de celui à qui il adresse sa prière. Amen. Donc, je sais que Dieu va me répondre, non pas à cause de mes propres bonnes œuvres, mais à cause du caractère de celui à qui j'adresse ma prière. Je sais qu'il est riche. Je sais qu'il est puissant. Et je sais qu'il est bon. Amen. Je sais qu'il est sage. Et donc, voilà cet homme. On peut dire qu'on connaissait Jésus mieux que les compatriotes de Jésus qui étaient censés le connaître. Ne lisait-il pas toute l'année la loi qui annonçait la venue de ce Messie? N'entendait-il pas ce Messie avec impatience? Et pourtant, lorsqu'il est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Mais cet homme a reconnu qui était Jésus. Lorsqu'on sait qui est notre Seigneur, et là, eh bien, c'est ce qui fait toute la différence. Il dit, en effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, part, et il part, à un autre, vient, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, il le fait. Et là, il dit, Seigneur Jésus, tu peux faire la même chose. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, la terre de la foi, en principe. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi, elle est humble. La foi, elle est basée sur la parole de Dieu. La foi, elle est basée sur notre connaissance du caractère de Dieu. Et c'est pour ça, eh bien, elle est si efficace. Et si on voulait examiner ou comparer la foi, par exemple, de la femme syrophénicienne, nous trouverions les mêmes éléments. Quand Jésus disait à cette femme, écoute femme, il n'est pas bon qu'on prenne la nourriture des enfants et de les jeter aux chiens. Cette femme a dit, mais les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Quelle humilité! Quelle humilité! Et parfois, les gens pensent que la foi, c'est de l'arrogance. C'est comme de la magie. C'est-à-dire, on veut manipuler Dieu pour nos propres, comment est-ce que je vais dire, pour notre propre plaisir, ou nos propres, non pas nos propres besoins, mais nos désirs, nos désirs, nos ambitions. Parce qu'on veut faire voir. Et on peut voir que ce centurion, sa prière a été exaucée aussi parce que c'est un homme de compassion. Où est-ce qu'on voit sa compassion? Eh bien, c'était son esclave, donc, qui était malade. Hein, dans certaines versions, c'est dit serviteur ici. Dans ma version, il dit c'est un esclave. Il a pitié de son esclave. Il aurait pu dire, bon, c'est un esclave qu'il meurt. Mais, il va demander à Jésus d'intervenir. Et lorsque notre foi est animée de bonnes intentions, eh bien, le Seigneur exauce. Amen. Lorsque notre foi est animée de bonnes intentions, le Seigneur exauce. Mais si notre foi, c'est simplement pour faire le spectacle, pour montrer combien on est super, on est extraordinaire, qu'on a notre foi est grande, à ce moment-là, le Seigneur n'intervient pas. Parce que la foi n'est pas pour glorifier l'homme, mais la foi est pour glorifier Dieu. La foi n'est pas pour glorifier l'homme, mais pour glorifier Dieu. Et donc, lorsque notre demande est pour la gloire de Dieu, eh bien, le Seigneur manifeste sa gloire. Le Seigneur manifeste sa gloire. Et je crois que le Seigneur, eh bien, il est prêt à manifester sa gloire à notre égard lorsque nous nous humilions devant sa face, lorsque, eh bien, nous marchons dans la direction de sa parole. Nous nous laissons guider par sa parole. Et sa parole, c'est très, très, très important. Et si ce que nous demandons coïncide, est en harmonie et en conformité, eh bien, avec sa parole, le Seigneur nous l'accorde. Le Seigneur nous l'accorde. Et donc, c'est pour cela, c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'être toujours à l'écoute de Dieu, d'être toujours à l'écoute de sa parole et d'apprendre à mieux connaître le Seigneur chaque jour. Et lorsqu'on connaît le Seigneur, eh bien, nos demandes vont être, je veux dire, tout à fait naturellement en conformité avec le caractère de Dieu, avec ce qu'il désire, ce qu'il veut. Et alors, il va exaucer nos vœux, parce que nos vœux seront comme ses vœux. Parce que, apprenant à le connaître, eh bien, on aura à peu près, je pourrais dire, les mêmes goûts. Les mêmes goûts. Et Dieu nous exaucera. Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et verset 10, de retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Et Dieu a répondu au centurion selon sa foi. Tu dis, c'est pas la peine que j'aille chez toi, c'est accordé. C'est accordé. Et voilà, le Seigneur a répondu au centurion et je trouve cela extraordinaire. Donc, bien aimé, les points que j'aimerais souligner dans ce passage, c'est de voir que, eh bien, Dieu ne fait pas de discrimination. Mais celui qui place sa confiance en lui, eh bien, il l'honore. Dieu a répondu au centurion, c'est pas parce qu'il était juif ou qu'il était romain, mais Dieu a répondu à sa prière parce qu'il avait cru. Amen. Donc, il y en a qui se vantaient. « Oh, nous sommes enfants d'Abraham !» Comme si cela suffisait pour que Dieu écoute leur prière. Non, il ne suffit pas de dire « Je suis enfant d'Abraham. » Mais il faut agir comme enfant d'Abraham. Et Abraham, il a exercé la foi en Dieu, c'est-à-dire, il s'est appuyé sur Dieu. C'est ça que la foi signifie. S'appuyer, il s'est appuyé sur Dieu. Seigneur, tu dis de partir, eh bien, je pars. Et Abraham est parti, sachant où il allait? Non, ne sachant même pas où il allait. Parce que Dieu lui a dit, pars. Abraham ne connaissait pas la destination, mais il connaissait celui qu'il avait envoyé. Amen. Donc, il connaissait celui qui l'a envoyé. Il dit, je pars. Puisque c'est toi qui le dis, eh bien, je pars. Même si je ne sais pas où je vais, mais je pars parce que tu es là. Amen. Il est toujours là avec nous. Lorsque Dieu nous dit pars, eh bien, il est là avec nous. Il ne va pas nous laisser seuls. À la maison, j'ai une horloge et au fond de l'horloge, il y a cette belle histoire qui est raconté. Donc c'était un homme, un jour, en fait c'est quelqu'un qui a fait un rêve, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, et alors à un moment donné, il se voyait marcher sur le sable au bord de la mer. Et pendant tout un certain temps, donc pendant que cette personne marchait à côté du Seigneur, il y avait deux séries d'empreintes de pas sur la plage. Et puis, à un moment donné, il n'y avait plus qu'une seule empreinte dans le chemin. Et à un moment donné, cette personne est en train de réfléchir. Et en réfléchissant, cette personne a dit, mais c'était les moments les plus durs de ma vie. Et cette personne s'est plainte au Seigneur. Seigneur, comment se fait-il qu'au moment où j'avais les moments les plus douloureux, les plus durs de ma vie, qu'il n'y avait qu'une seule empreinte de pas sur la plage? Et alors le Seigneur lui répondit, mon enfant, lorsque tu as vu qu'il n'y avait qu'une seule empreinte de pas sur la plage, c'était le moment où je te portais dans mes bras. Extraordinaire. Donc le Seigneur, il est toujours là avec nous, même les moments les plus difficiles, même lorsqu'on pense peut-être, ah, il n'est pas là. Il est toujours là. Il est toujours là. Et lorsqu'on regarde en arrière, on peut dire, ah, comment est-ce que j'ai pu traverser ça? Et si tu as pu traverser cela, eh bien, c'est parce que le Seigneur était là. Autrement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Amen. Chacun de nous ici, on est là aujourd'hui parce que le Seigneur nous a aidés à traverser des moments difficiles. Nous avons tous connu des moments pénibles, douloureux. Peut-être sauf les tout jeunes. Mais nous avons tous connu des déceptions, des moments difficiles. Et le Seigneur a été avec nous. Donc le Seigneur, il est toujours là avec nous. C'est pourquoi lorsqu'il nous dit pas, eh bien, nous pouvons partir, comme Abraham. Donc la foi, c'est s'appuyer sur Dieu, s'appuyer sur son caractère. Même si nous ne comprenons pas tout, même si nous ne voyons pas tout, même si nous ne voyons pas la destination, mais il nous montre le chemin un pas à la fois. Hein, des fois, nous voudrions voir tout le chemin, mais il nous conduit un pas à la fois. Alors, je vais terminer en disant, nous voyons que l'officier romain, ce centurion, eh bien, il avait un cœur pour Dieu. Il avait un cœur pour Dieu, et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a bien écouté. Il a bien écouté et il a retenu. Les autres, beaucoup ont entendu parler de Jésus aussi. Mais ils n'ont pas fait attention, mais cet homme a fait attention à ce qu'il a entendu. Et il a compris qui était Jésus. Et parce qu'il a compris qui était Jésus, il a dit, c'est lui qui est capable de résoudre cette situation. Mais là encore, dans son humilité, il a dit, je ne suis pas digne d'aller vers cet homme. Bon, maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse. Dans le passage parallèle dans Matthieu, il est dit, le centurion est allé auprès de Jésus. Donc ici, le fait que il envoie une délégation, on peut dire que la délégation, c'est comme si c'était lui qui était allé vers Jésus, ok? Donc parce que peut-être qu'après vous lisez le même récit dans Matthieu, vous pouvez être troublé. C'est comme par exemple dans la version de mon frère, il est dit, il a construit une synagogue, ok? Mais c'est pas lui qui a construit lui-même, il a fait construire. Ok, donc voilà. Donc dans Matthieu, il a dit, il est allé auprès de Jésus. Ici, peut-être parce que Luc lui-même n'était pas juif, Luc voulait souligner ce point-là. Donc voilà, cet homme, donc il a bien reçu ce qu'il a entendu de Jésus. Concernant Jésus. Et alors, il a compris qui était Jésus et, dans son humilité, il envoie une délégation. Il ne se pas senti digne. Et a dit, moi, le Romain, je ne veux pas perturber une réunion entre juifs dans l'assemblée des juifs. Je sais que peut-être que je serai mal reçu. Hein? Il connaissait les préjugés des juifs vis-à-vis des non-juifs. Il disait peut-être que on ne va pas me laisser m'approcher de cet homme. Et donc il se sentait lui-même indigne. Alors il envoie une délégation. Hein, il envoie quelques anciens des juifs. Donc des hommes probablement respectables, c'est pour ça qu'on les appelle anciens. C'était pas nécessairement qu'ils étaient vieux, mais ils étaient des hommes respectables. Et alors il envoie une délégation. Et alors Jésus, donc qui justement vient, et là cet homme, il envoie d'autres amis dire à Jésus, non, c'est pas la peine de venir jusque chez moi. Dis seulement un mot, et alors mon serviteur sera guéri. Et donc, le Seigneur a entendu sa prière. Parce que cet homme a placé sa confiance, non pas dans ses propres bonnes œuvres, dans sa piété. Il n'a pas fait comme la prière du publicain, je jeûne deux fois par semaine, je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont pécheurs, mais il a dit, je ne suis pas digne. Il a fait comme la prière du publicain. Ici, il a dit, je ne suis pas digne, Seigneur, mais je sais qui tu es. Je sais que tu es un Dieu d'amour. Je sais que tu es un Dieu puissant et que dans ta miséricorde, tu peux faire cela pour moi. Non pas que je le mérite. Les autres disaient, la délégation disait, il le mérite. Mais lui dit non. Je ne mérite rien du tout. Mais je sais que dans ton amour, tu peux le faire. Amen. Nous servons un Dieu d'amour et nous servons un Dieu tout-puissant. Donc, basons notre foi sur le caractère de Dieu, de dire, Seigneur, je ne mérite rien, mais toi, tu peux tout. Prions le Seigneur.